Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
C'est apaisant, non, ce bruit du vent dans les feuilles, ça reconnecte, comme on dit. Parce que quand on vit en ville, ce n'est pas vraiment ce que l'on entend. Et ce ne sont pas les avenues haussmanniennes, plantées à intervalles réguliers, qui y font grand-chose. Mais ça pourrait changer. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et on va voir comment la forêt pourrait regagner les cités grâce à un urbaniste qui bouscule les codes et à des politiques de la ville d'un nouveau genre.
Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille.
Maxime Le Forestier le chantait de façon poétique dans les années 1970. Pas facile d'être en ville, à l'image des rares arbres qui y survivent, espacés, isolés, contraints entre les pavés. Anaïs Moutot a rencontré pour les Échos Week-end un paysagiste qui veut changer ça. Il s'appelle Michel Desvignes et je lui ai demandé, pour commencer, de nous le présenter.
Michel Desvignes, c'est une star du paysagisme. Il est à la tête de la plus grosse agence de paysagisme française, qui est aussi la plus internationale. Il a fait l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, qui est vraiment la formation très reconnue dans le domaine. Puis il a créé sa propre agence à la fin des années 80 à Paris. Et aujourd'hui, elle emploie 47 salariés. Elle a beaucoup de commandes, environ 70 actuellement, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc il travaille par exemple au Qatar, aux États-Unis, en Russie, au Luxembourg, en Suisse, etc.
Quel est son secret dans le paysagisme pour avoir un tel succès ?
Michel Desvignes, il redéfinit la façon dont on pense la nature en ville. Donc, pendant longtemps, dans les grandes métropoles françaises, il y avait une place très circonscrite pour la nature. Donc, si on prend Paris, on a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, 600 hectares chacun environ. Ils sont vraiment en dehors de la ville, en fait. Et en ville même, on a des arbres d'alignement, donc le long des avenues, le long des rues. Et sinon, on a des parcs et des squares, mais avec beaucoup de gris autour, donc quand même toujours cette notion d'un espace séparé. Et pas beaucoup d'arbres, souvent. C'est plutôt des pelouses, c'est plutôt des parterres de fleurs, c'est des fontaines, etc. Donc, Michel Desvignes, lui, il s'éloigne de ça, de cette approche de la nature comme un espace vert, en fait, cette idée d'un espace circonscrit, pour proposer ce qu'il appelle des forêts urbaines. Bon, il y a débat sur ce terme, hein, qui envoie quand même souvent un peu plus de rêve que la réalité de la chose. Même lui reconnaît que parfois, c'est un peu abusif pour des petits projets en centre-ville. Mais l'idée, c'est de faire des plantations d'arbres qui sont serrées, avec un petit sous-bois, avec des fougères, etc. Et une densité qui est proche d'une exploitation forestière, donc, mais sur un petit périmètre. Et ça crée un peu un nouvel espace, en fait. C'est ni une place, c'est pas vraiment un jardin non plus, c'est quelque chose d'intermédiaire. C'est un peu un entrelacement entre la ville minérale et le végétal.
La forêt, c'est donc sa matrice d'inspiration. Y a-t-il une origine à ça, une histoire personnelle ?
Michel Desvignes, c'est quelqu'un qui adore la forêt. En fait, lui, sa mère est d'origine russe. Il a grandi à Lyon et notamment ses grands-parents, qui étaient des anciens aristocrates russes, qui en fait ont une maison ouvrière pas loin de Lyon. Ils avaient un jardin et puis lui s'est mis à planter en fait sa première forêt dans le jardin de sa grand-mère. Et en Russie, par exemple, dans les grands immeubles à Saint-Pétersbourg, on a souvent de la petite forêt au milieu. Donc, il dit que voilà, cette culture de la forêt en ville l'a vachement influencé. Et donc, il cherche un peu à reproduire cette sensation qu'on a dans d'une nature assez libre dans la forêt, donc une certaine spontanéité qu'on a pas mal aussi dans les jardins anglais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très influencé par la culture du jardin classique à la française du XVIIe siècle, donc à la Le Nôtre, en fait. Donc voilà, c'est l'inspiration de l'École nationale du paysage de Versailles. Donc, c'est une vision très architecturée, avec des grandes perspectives. Cette obsession de faire un espace public qui est très lisible et cohérent. Ces deux mots qui reviennent en permanence dans sa bouche, dans son discours. Et en fait, son autre référence importante, c'est les paysagistes américains aussi. Donc en fait, lui, c'est un énorme fan de Frederick Law Olmsted, qui est le créateur de Central Park à New York. Mais plus que Central Park, ce qui l'a beaucoup influencé, c'est ses travaux à lui et à son fils à Boston et à Washington. Notamment, en fait, ce qu'il appelle les systèmes de parcs. Donc à Boston, par exemple, on parle d'un collier d'émeraude. Donc c'est cette continuité, en fait, verte dans toute la ville. L'idée, en fait, c'est à la base d'amplifier une géographie qui existe, naturelle, donc en partant par exemple des rivières et de leurs affluents, et de l'embellir pour en constituer l'ossature, la charpente de la ville. Et donc, par exemple, en fait, on va penser toute la viabilisation, c'est-à-dire toutes les voies routières de la ville vont être faites en fonction de ça. Donc, on crée ce qu'on appelle des parkways, par exemple. Donc, aujourd'hui, Michel Devine, il essaye un petit peu de faire ça en France, dans la périphérie française. Après, c'est quand même plus dur de le faire quand on le fait a posteriori et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été construites depuis.
Alors Anaïs, on comprend mieux sa démarche, mais maintenant, concrètement, où peut-on voir ces projets emblématiques en France pour avoir une idée de cette façon de ce qu'il a pu créer ou transformer ?
En fait, le projet pour lequel il est le plus célèbre, c'est le Vieux Port de Marseille. Donc, on s'en souvient plus forcément très bien, mais avant 2012, en fait, le Vieux Port, il y avait 10 lignes de voitures, il y avait des terre-pleins, il y avait des barrières, en fait, tout le long de l'eau. Et donc, c'était un espace où la balade n'était pas évidente et le tout était un petit peu fouillis, en fait. Donc, lui, il est venu là-dedans. Alors, on a surtout retenu cette ombrière miroir qui est le long du port, mais c'est juste une petite partie des choses qu'il a mis en place. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit déjà le nombre de voies, il a semi-piétonisé la zone. Donc maintenant, il n'y a plus que 4 voies au lieu de 10 pour les voitures et les bus. Et puis, il a retiré tout ce qui était activité nautique des quais pour les mettre sur des plateformes en pilotis sur l'eau, en fait, ce qui a dégagé les quais et permis cette grande promenade. Et puis, il a mis du granit blanc partout, ce qui donne une espèce d'aspect monolithique, un peu une grande esplanade comme ça. Donc, ça l'a rendu un peu aux piétons, cette zone. Donc ça, c'est vraiment la chose pour laquelle il est plus connu. Il a reçu le prix européen de l'aménagement de l'espace public en 2014 pour ça. Il est aussi connu en France, donc à Bordeaux, il a fait un peu toute la végétalisation de la rive droite de la Garonne, notamment le parc aux Angéliques. Au Havre, il a fait le quai de Southampton. À Lyon, Confluence. Il a aussi fait une chaîne en fait de parcs qu'il a créé dans le bassin minier du nord de la France. Donc ça, c'est un projet un peu différent parce que c'est pas dans une ville, mais c'est un peu ce sur quoi il travaille de plus en plus, qui est cette idée de travailler à la périphérie, tous ces endroits, on a des maisons individuelles, etc. Et où les gens, en fait, n'ont pas forcément un accès facile à la nature. Alors qu'en fait, ils vivent dans la nature, mais ils n'ont pas un accès forcément évident. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est que dans cette zone où il y a beaucoup d'anciens terrils, souvent, il y avait des petits parcs, mais ils n'étaient pas reliés les uns avec les autres. Et donc, en fait, il a, sur cette zone qui est assez grande, je crois que c'est 4000 hectares, il a utilisé les anciens chemins où il y avait des wagonnets qui passaient pour transporter des matériaux, pour créer des chemins, en fait, entre toute cette zone et faire un peu cette chaîne de parcs. Donc ça, c'est dans les projets qu'il a déjà réalisés. Dans les projets sur lesquels il travaille aujourd'hui, il est sur le quartier de la Tour Montparnasse, qui va être complètement reconfiguré, avec l'idée, je crois, en 2030, que ça soit fini. Donc la tour en elle-même, elle va être végétalisée, il va y avoir une serre, etc. Mais lui, il est chargé de planter 2000 arbres dans ce quartier, notamment sur le parvis de la gare, avec cette idée de faire une petite forêt urbaine. Sinon, il travaille aussi sur l'esplanade de la Défense, qui doit doubler sa couverture végétale, qui est très très minérale jusqu'ici, et sur le campus de Saclay, qui essaye, donc ça concentre 15% de la recherche française, mais c'est une zone qui pour le moment n'est pas très attirante, les gens ne veulent pas vraiment y vivre, donc il essaye de créer un quartier assez dense, donc avec des immeubles quand même 5-6 étages, des entreprises, etc., mais qui soit agréable à vivre, et notamment dans la frontière avec tous les champs qui les entourent, donc il double ces espèces de zones qu'il appelle les lisières, quoi, entre les champs et les constructions, en essayant de ramener du maraîchage, des activités comme ça qui donnent un peu de la vie à ces espaces.
Où peut-on voir ses plus importantes réalisations à l'étranger ?
Alors, à l'étranger, il est très connu pour la forêt urbaine d'Otomachi, qui est le quartier d'affaires de Tokyo. Donc, en fait, c'est une grande dalle de 3 600 m² et il a vraiment recréé une forêt là-bas en travaillant avec les équipes du botaniste du Palais Impérial, en fait, en ramenant des morceaux de forêt. Il y a les animaux qui ont été ramenés, il y a les insectes, il y a vraiment les arbres, etc. Donc ça, c'est vraiment devenu un peu un modèle pour la forêt urbaine. Sinon, il a aussi beaucoup travaillé au Qatar, en fait, jusqu'entre 2008 et 2016. Il y a l'architecte Jean Nouvel qui a fait appel à lui pour les jardins du nouveau musée national, cette espèce de rose des sables qu'il a créée, et aussi pour la corniche de Doha, donc la capitale. Et on a aussi l'architecte de la pyramide du Louvre, Yempai, qui s'est tourné vers lui pour les abords du musée d'art islamique. Et il travaille sinon aussi beaucoup aux États-Unis, donc à nouveau sur les jardins des musées, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup. Mais son travail le plus connu là-bas, c'est ce qu'il a fait à Détroit. En fait, le maire de la ville a fait appel à lui après la faillite de la ville en 2013. L'idée, c'était d'essayer de rendre à nouveau le centre-ville attractif. Et donc, on a cette rivière où il y avait un peu un espace de 3 km délaissé. Et donc, il lui a demandé de réfléchir à cet espace. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un parc. Mais le parc, il s'insinue en fait dans la ville et il va dans tout ce qui est les vides laissés par la désindustrialisation. C'est quelque chose que fait beaucoup Michel Devine, c'est il réfléchit à ce qu'il appelle les délaissés, tous ces espaces, anciennes friches industrielles, etc. Et donc, il essaye de remettre de la nature dans ces espaces-là.
Repeupler cette partie du bois de Vincennes, le faire aussi avec l'apport des citoyens parisiens, c'est aussi une façon de recréer de l'engagement.
On vient d'entendre la maire de Paris, Anne Hidalgo, dire tout le bien qu'elle pense de la reforestation. Alors, il faut savoir que Michel Devigne a conquis littéralement la mairie de Paris avec sa vision, qui est en rupture avec les squares au style paysager classique et au petit parterre de fleurs qui la caractérise, au point de se voir confier une mission. Laquelle, Anaïs ?
Oui, en fait, la mairie de Paris lui a commandé un rapport sur les forêts urbaines, vraiment sur comment faire concrètement. Donc, il a écrit ça avec Marine Linglard, qui est une écologue avec laquelle il s'associe de plus en plus. Donc, en fait, ils ont expliqué qu'il ne fallait pas juste mettre quelques arbres en pot ou dans un bac, qui est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus à Paris et dans des grandes villes, que ce n'était pas ça, la forêt urbaine. Mais en même temps aussi qu'il fallait voir les contraintes. Donc, ils ont posé quelques grands principes. D'abord, eux, ils ont dit qu'il fallait une surface minimale de 5 000 m² avec une forme assez compacte. Donc, pas une étoile, mais plutôt un rond. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'interactions lumineuses pour vraiment retrouver cette ambiance forestière un peu sombre, un peu fraîche, etc. Et il faut une profondeur de sol quand même d'1,20 m, 1,50 m minimum pour qu'au moins les arbres puissent vraiment s'ancrer dans le sol, quoi. Donc, ça, c'est important. Et aussi, il faut réfléchir à pas faire la même forêt partout, en fait. Parce que si on est à l'ombre d'une grande tour, par exemple, c'est pas du tout les mêmes végétaux qu'au sud d'une grande tour. Donc, voilà, avoir pensé bien localement chaque projet. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont conseillé dans ce rapport.
Et ces projets de forêt urbaine, dans l'ensemble, est-ce qu'ils font l'unanimité chez les partisans de la nature ou bien c'est plus compliqué que ça ?
C'est vrai qu'en France, il y a souvent eu une logique de protection de la nature. Donc, en fait, en France, on est très fort pour l'idée qu'il faut extraire l'homme de la nature. Donc, on a les zones Natura 2000, etc. En fait, on a plein de statuts qui permettent vraiment d'avoir des zones protégées. Et lui, il n'est pas du tout dans cette approche. Il est dans l'idée qu'il faut trouver une manière de faire que l'homme et la nature, ça marche ensemble. Donc ça, l'écologue, par exemple, à qui j'ai parlé, avec qui il travaille, elle me disait que, elle, c'était pas toujours très bien vu le fait de travailler sur ce genre de projet, en fait, parce que souvent, les écologues, voilà, ils avaient cette idée d'une nature séparée de l'homme. Donc, il y a un peu une controverse là-dessus. Et après, sur la question même des forêts urbaines à Paris, il y a eu quand même pas mal d'opposition à Hidalgo de la part du groupe Europe Écologie Les Verts. Alors, moins sur maintenant ce qui va se faire, puisque du coup, ils ont quand même choisi des lieux plus appropriés. Mais au départ, oui, au Conseil de Paris, ça a beaucoup gueulé. Il y avait une des élues qui a dit on ne veut pas d'un gaspillage de l'argent public ni d'un gadget environnemental qui répond à un effet de mode. Parce que voilà, pour eux, ça allait coûter très cher. C'était des zones aussi où il y a les zones qui étaient envisagées, ce n'était pas celles où il y a forcément besoin le plus d'arbres à Paris. C'est notamment surtout dans le nord de Paris, le nord-ouest, 18e, 19e, etc. aussi, où on manque beaucoup d'arbres. Et là, c'était plus dans des zones où il y a déjà des squares, etc. Donc, il y avait une question d'équité derrière. Donc, voilà. Donc, c'est pas forcément... ça ne remporte pas la pleine adhésion. Il y a quand même des critiques, quoi.
Le paysage d'une ville qui change se dessine, même s'il y a des résistances. Dans son article paru dans les Échos Week-end, Anaïs cite Jean-Louis Missika. Il est l'adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, en charge de l'urbanisme. Il a ces mots que je partage avec vous. Le phénomène Haussmann a eu lieu en même temps que le phénomène Pasteur. La minéralisation de la ville était considérée comme un acte de santé publique. Le végétal était vu comme sale. Aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. Avec la question de comment rafraîchir les villes face au réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Où en sont nos villes aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on peut dire que les villes, elles sont pas vraiment vivables. Enfin, elles sont très bien quand on veut sortir, quand on veut aller au restaurant, quand on veut travailler, mais ça manque clairement de verdure.
Leïla Marchand est journaliste aux Échos.
On estime que c'est le résultat d'une mentalité qu'on a héritée du 19e siècle. Enfin, c'est ce que m'expliquait Philippe Clergeot, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle et consultant en écologie urbaine. Donc, cette mentalité disait qu'en fait, la nature doit rester à la porte de la cité, car le rôle de la ville, c'est de nous protéger de l'extérieur, de la nature, des loups, des brigands, d'où la séparation entre nature et ville.
Est-ce que, comme le dit Jean-Louis Missika, on est à un changement de paradigme et pourquoi ?
Oui, aujourd'hui, les temps changent clairement. On a plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville et on sera bientôt plus des deux tiers de la population mondiale en ville, alors que c'est en ville qu'il y a ce phénomène d'îlot urbain qui fait qu'on a très chaud parce que les villes sont faites en acier, en béton, et donc la chaleur reste confinée et ça devient vite irrespirable quand on habite en ville. C'est pour ça qu'il est urgent de végétaliser, de protéger les sols, de créer de l'ombre en ville pour réduire la température et construire une vraie biodiversité urbaine.
T'as mis plein de boue sur ton pantalon, ta maman, elle va pas être contente.
C'est pour des arbres, donc...
Il faut ce qu'il faut.
Parce que les arbres, c'est pour l'oxygène et tout, donc...
Surtout que ma maman, elle aime bien la nature.
Et pour créer cette biodiversité urbaine, est-ce qu'il suffit de planter des arbres et de réintroduire des espèces ?
Oui, il faut planter des arbres, effectivement. Après, c'est vrai qu'il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas jeter des arbres n'importe où. Faut pas mettre des plantes exotiques sur une façade parce qu'on trouve que ça fait joli alors qu'elles ne vont pas tenir l'hiver ou alors, au contraire, elles vont devenir envahissantes. Ce qui est important, c'est de créer des écosystèmes qui durent dans le temps, qui traversent les saisons, qui soient cohérents au niveau local. Et quand on a cet écosystème bien construit en ville, les espèces animales, on n'a pas besoin de les introduire parce que naturellement, elles vont venir s'installer dans ces coins de nature.
Qu'est-ce qu'on risque, Leïla, avec une mauvaise gestion des essences ou des espèces ? Quel est l'écueil à éviter ?
Les monocultures sont vraiment très fragiles. C'est Philippe Clergeot toujours qui m'expliquait qu'il avait remarqué que 60% des grandes villes étaient plantées avec des platanes et des marronniers uniquement. Et 90% des toits végétalisés, si vous allez voir, ils sont recouverts de sédum. Donc, c'est des petites plantes grasses qui sont très pratiques parce qu'elles sont pas chères, elles sont très résistantes, elles recouvrent vite le sol, mais c'est une seule espèce sur tous les toits. Et donc, si jamais il y a une maladie, eh bien, toute l'espèce meurt d'un coup. Donc, on a tout de suite plus du tout de nature. C'est ce qui s'est passé avec les platanes dans les années 70. Il y en avait beaucoup, beaucoup plus en France et donc tout d'un coup, une maladie a tout ravagé. Et c'est pareil d'ailleurs pour les espèces animales. L'exemple typique d'une erreur de débutant quand on veut réintroduire de la nature en ville, c'est qu'on a envie d'installer des ruches sur les toits. Alors, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de mairies ou d'entreprises qui ont voulu faire un geste en installant des ruches comme ça. À Paris, on a aujourd'hui plus de 700 ruches. Et donc, ça fait énormément d'abeilles, mais c'est beaucoup trop parce que ce sont des espèces domestiques. Et en fait, elles vont complètement écraser les autres espèces de pollinisateurs sauvages, comme les abeilles sauvages ou les bourdons ou les papillons.
Et pour les oiseaux des villes, dont la population diminue dangereusement, on le rappelle, est-ce qu'on a mieux compris ce dont ils ont besoin pour rester ou même revenir?
On a mieux compris ce que voulaient les oiseaux pour certains, parce qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui souffrent encore beaucoup en ville. Enfin, par exemple, il y a eu plusieurs études qui montraient que les hirondelles ou les moineaux étaient en train de péricliter en ville. On en voit de moins en moins parce qu'eux, ils nichent dans les murs. Ils cherchent des trous, des fissures pour faire leur nid. Et donc, comme en ville, on a de plus en plus de façades lisses ou en verre, ils peuvent plus nicher. Et donc, c'est pour ça qu'on en voit de moins en moins. Mais pour d'autres espèces nicheuses, c'est vrai qu'on a mieux compris leurs besoins et s'épanouissent de plus en plus. Par exemple, c'est le cas des mésanges ou des rouges-gorges. Et ça, c'est grâce notamment, pas forcément au fait de planter des arbres, mais plutôt la pratique du fauchage tardif. Alors, c'est de plus en plus pratiqué dans les parcs. C'est le cas à Paris, par exemple. C'est très facile, en fait, ça consiste à ne rien faire, à juste ne pas tondre trop vite, laisser l'herbe monter en graines, laisser les herbes pousser, et comme ça, ces graines, elles vont à la fois nourrir les oiseaux qui sont granivores, mais aussi, elles vont, ça va permettre de donner un refuge aux insectes, et des insectes qui vont eux-mêmes nourrir les oiseaux.
Avoir une ville biodiversitaire, qu'est-ce que cela signifierait et à quoi ça pourrait ressembler ?
Il faut accepter d'avoir des feuilles par terre, d'avoir un peu ce qu'on appelle ces mauvaises herbes, d'avoir des fourmis, d'avoir toutes sortes d'espèces animales et végétales qui peuvent proliférer pas forcément comme on le veut, et donc accepter de laisser quelques espaces sauvages comme ça auxquels on ne touche pas. Et l'idéal, c'est d'avoir des villes qui prévoient ce qu'on appelle des corridors écologiques, donc des espaces de nature reliés entre eux pour que les espèces puissent circuler facilement dans la ville sans se retrouver bloquées dans de petits réservoirs de biodiversité, mais vraiment qu'ils puissent circuler.
Est-ce qu'il y a une ville actuellement dans le monde qui est la mieux avancée dans cette voie ?
Il n'y a pas vraiment de ville parfaite, mais on peut quand même citer l'exemple de Singapour. On pourrait ne pas s'y attendre parce que c'est une immense cité-État, très très densément peuplée avec beaucoup de gratte-ciel. Mais ils ont aussi décidé de dédier 10% de leur territoire aux espaces verts. Et leur objectif, c'est de devenir une ville dans un jardin, carrément. Donc pour ça, ils ont eu beaucoup d'initiatives. Et un des projets les plus connus, si vous avez peut-être vu quelques images, s'appelle Gardens Bay by the Bay. Et c'est un immense éco-parc de 100 hectares en plein centre de la ville. Une des vues les plus connues de ce jardin, ce sont des immenses arbres en acier. Alors, vous allez me dire, en acier, c'est bizarre. Non, c'est juste la structure des arbres. Ils ont fait une structure d'arbres géante en acier qu'ils ont recouverte de végétation. Et c'est un mélange de high-tech et de nature parce que ces arbres, ils peuvent récupérer l'eau. Ils ont un système aussi de capteurs solaires. Et donc, on peut circuler au milieu de ces arbres en acier sur des passerelles, au milieu de la nature. Et c'est vraiment très beau. Mais ils sont aussi avantagés par leur climat tropical qui fait que tout pousse très facilement, très naturellement. C'est pas des végétations qu'on pourrait voir en France, mais c'est quand même inspirant.
Alors inspirons et expirons et surtout plantons. Mais on l'a vu, pas n'importe comment. Merci à Anaïs Moutot des Éco Weekend et à Leïla Marchand des Échos pour cette promenade en ville-forêt. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.